tous. Alors, on est heureux d'être avec vous ce matin en famille. Alors, c'est vrai qu'on a les garçons qui sont là et la fille. Sephora, elle est peut-être partie de l'autre côté. Voilà. Donc, on a Josué qui a 14 ans, mais qui est quand même grand. Alors, on a Jean qui en a 12, bientôt 12. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, la petite Sephora, la petite dernière. Voilà. Qui est contente de porter le nom de Sephora à chaque fois qu'elle voit la pub à la télé, ça la rend fière. Alors, on va partager la parole de Dieu ensemble ce matin. Peut-être juste avant, effectivement, redire que nous avons un repas le 22 aussi avril, ça sera au soir à 19h. C'est à Bantigny, c'est-à-dire c'est dans notre village à nous, à peu près une trentaine de minutes de l'église. Donc ça sera en effet un couscous fait par un traiteur. Enfin, il nous a vraiment vanté son couscous, donc on devrait normalement très très bien manger. Surtout, ça va nous donner l'occasion, c'est dans une salle municipale, hein, la salle municipale de Bantigny, ça va surtout nous donner l'occasion de faire une présentation officielle de ce travail d'Amitié Haïti, puisque nous sommes... juste à quelques semaines près, nous avons créé l'association au regard de ce deuxième voyage que nous avons fait. Donc je ne vais pas en parler ce matin parce que c'est prévu pour le 22, mais on a des projets aussi qui sont sortis de terre. Et donc on va à la fois présenter officiellement notre association qui vient d'être créée, également les projets qui seront présentés dans le détail à l'occasion de cette soirée-là, et on aura avec nous le maire de notre commune, hein, qui nous fait l'honneur d'être là, et puis on aura également probablement une personne qui, sur le plan national, a un rayonnement au niveau de l'action de solidarité. Voilà, donc on espère avoir un bon temps ensemble, et on ne devrait pas finir excessivement tard, je pense qu'aux alentours de 22h30, 23h, la soirée sera terminée parce que le lendemain, il y a le culte aussi, n'est-ce pas? Alors, qui était hier à la soirée de louange? Voilà. Alors, bravo, je vous félicite parce que je pense que vous êtes rentré tard, certainement. Et donc, bravo. Hein, soyez bénis pour cet engagement que vous avez aussi à l'égard du culte et du Seigneur, bien sûr, à l'Église. Je vous propose ce matin une lecture tirée du petit prophète Malachie au chapitre 3. Et au verset 7, Malachie, chapitre 3, verset 7. Et les premiers versets que je vais prendre vont plutôt me servir de contexte avant d'arriver, je dirais, un petit peu plus au cœur du message qui, lui, se trouve à partir du verset 16. Mais on va le prendre à partir donc du chapitre 3 et verset 7. Avant ça, simplement, on va demander la grâce du Seigneur. Seigneur, on te remercie pour ta parole, Seigneur, et notre prière ce matin, c'est que ta parole, Seigneur, vienne imprégner nos cœurs, qu'elle vienne, Seigneur, impacter nos vies, Seigneur, en profondeur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ta parole soit comme de l'eau qui tombe sur les plumes du canard, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que ta parole véritablement pénètre, Seigneur, nos cœurs en profondeur et que ta parole, Seigneur, puisse produire son fruit, Seigneur, en nous, Seigneur. Nous savons qu'une terre qui n'est pas arrosée ne peut pas produire, Seigneur, et nous prions pour que ta parole ce matin arrose notre cœur, Seigneur, en profondeur, et que de cette parole, Seigneur, nous puissions aller de l'avant, que nous puissions marcher dans tes voies et faire toute ta volonté dans nos cœurs, Seigneur. Amen.
Amen.
Malachie, chapitre 3, donc verset 7, dans un premier temps, comme je le disais, pour dresser un contexte, et verset 16 pour entrer dans le cœur du message. « Depuis le temps de vos pères, dira le prophète, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Et vous dites, « En quoi devons-nous revenir ? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez ? » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes. » Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureuses, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Voilà un texte vraiment puissant qui nous parle de la manière dont Dieu, finalement, traite un petit peu les choses, les circonstances aussi, à l'échelle, pour le coup, ici, d'une nation. Nous sommes dans un contexte particulier, nous sommes à peu près dans le 5e siècle avant Jésus-Christ, on est dans cette période de l'après-exil de Babylone, le peuple donc est déjà rentré depuis un certain temps, et sous Esdras, le temple a été rebâti, et les sacrificateurs ont retrouvé progressivement leurs fonctions, les sacrifices ont de nouveau été remis en ordre, il y a eu tout un travail qui a été fait. Mais cependant, au moment où Malachie est en train de prophétiser, il y a malheureusement encore à l'époque, dans le peuple, il y a beaucoup de tiédeur spirituelle. Il y a vraiment une tiédeur spirituelle. Et il y a aussi du désordre spirituel. On le voit notamment dans le fait que le culte, par exemple, et les sacrifices ne sont plus faits comme Dieu précisément le demandait. On apporte en sacrifice à l'Éternel des bêtes qui sont chétives, des bêtes qui sont malades, alors que, et si vous lisez Malachie tout entier, vous le verrez, alors qu'on a dans son troupeau de belles bêtes en forme bien grasse, qui sont normalement celles qui sont réservées justement en priorité pour le Seigneur. Et le peuple de Dieu, je dirais essentiellement aussi extrêmement mal dirigé par les sacrificateurs de l'époque qui déshonorent Dieu justement par leur comportement, par leur choix, par leurs décisions. Eh bien, la nation tout entière se trouve, on pourrait dire, dans une relation un peu mi-figue, mi-raisin avec l'Éternel. C'est Dieu, oui, mais un peu du bout des lèvres. Et c'est pas vraiment Dieu au fond du cœur, avec ce que cette parole de Dieu exige qu'il ait la première place. Toujours, on entend toujours ça dans l'Écriture. Dieu veut en effet la première place. Tu adoreras le Dieu, ton Dieu seul, et lui seul. Pas d'autre Dieu devant ma face, toujours. On a un Dieu, on le sait, qui est jaloux, nous dit l'Écriture. C'est le nom qu'il porte. Il s'est marié quelque part à nous et il n'a en aucun cas l'intention d'avoir des femmes, des épouses, chacune pour ce que nous sommes, attirées par autre chose que lui. Et donc, on trouve dans ce texte de Malachie, depuis les premiers chapitres, on va trouver Dieu qui va révéler à quel point son nom pour lui est outragé, à quel point son nom est profané. Et à chaque fois, les sacrificateurs répondent toujours « Mais en quoi ? En quoi est-ce que on t'a outragé ?» Il y a toujours ce moment où les sacrificateurs et le peuple, quelque part, discutent le diagnostic de Dieu. Et Dieu va commencer Malachie en disant « Je vous ai aimé ». Et le peuple va dire « Mais en quoi nous as-tu aimé ?» Ouais, ça discute. Dieu est d'un côté en train de diagnostiquer l'état spirituel du peuple, et le peuple et surtout les sacrificateurs discutent le diagnostic de Dieu, révélant justement que leur cœur est un petit peu en demi-teinte. Le problème de cette situation, où il y a des mariages qui sont faits à l'époque des Juifs qui vont se marier avec des femmes non-juives, introduisant d'autres dieux, d'autres cultes, introduisant aussi des souffrances intenses pour les femmes qui se plaignent devant Dieu et qui couvrent, comme le dit Malachie, qui couvrent l'autel de leurs larmes, etc. Toutes ces négligences spirituelles, toutes ces déviances spirituelles entraînent, je dirais, une parole finalement extrêmement dure de la part de Dieu sur la nation tout entière. Et vous remarquerez que ce que Dieu va dire dans ce qu'on a lu au tout début, il va leur indiquer le chemin, quelque part. Il va leur dire « Revenez à moi, et je reviendrai à vous ». On a un Dieu qui, à cette époque-là, pour le peuple d'Israël, il faut quand même bien le comprendre, est quand même déjà très loin maintenant. Il ne va pas leur déclarer dès le départ « Je vous aime ». Dès le départ, il va dire « Je vous ai aimé ». C'est quand même pas la même chose, non ? Si quelqu'un vient vous voir et te dit « Écoute, moi je t'ai aimé, quoi. Hein. » C'est pas « Je t'aime encore maintenant ». Dieu dit ça au peuple d'Israël, parce qu'il y a eu tellement d'égarements que Dieu n'en est plus à pouvoir leur dire qu'il les aime, bien qu'il les aime, évidemment, puisqu'il leur envoie un prophète. Et il leur dit dans cette parole au début, « Revenez à moi et je reviendrai vers vous ». Ça montre déjà à quel point le Seigneur en est loin. Et puis il va leur donner ce conseil d'honorer Dieu par les dîmes et les offrandes. C'est vrai que Dieu touche au portefeuille, c'est marrant, parce que c'est souvent un des endroits indicateurs de l'engagement qu'on a envers Dieu, parce qu'on a tous des besoins, forcément, et quelque part, Dieu va appeler le peuple à restaurer, je dirais, ces choses-là, parce que c'est le signe tangible, quelque part, du fait qu'on place Dieu véritablement à la première place. Et alors Dieu leur promet, par derrière la bénédiction, il leur promet d'ouvrir le ciel, ça veut dire que le ciel à ce moment-là est fermé, il leur promet la prospérité économique, ça veut dire qu'à ce moment-là, la prospérité économique n'est plus là, ou pas là tout au moins, ou mi-figue, mi-raisin. Ils vont semer, ils vont récolter qu'une partie de ce qu'ils ont semé, parce que Dieu ne protégera pas les semences, puisqu'il promet, s'ils obéissent, de les bénir de manière particulière et de faire d'eux une première nation. La question qu'on peut se poser par rapport à tout ça, c'est que se passe-t-il pour ceux et celles qui craignent Dieu dans une nation comme cela ? Parce que Dieu a une parole pour ceux qui le craignent, y compris dans une situation qui n'est pas celle que Dieu attend. Et ça nous parle d'injustice quelque part. On peut très bien, dans notre famille, tout en marchant avec Dieu, tout en honorant Dieu pour nous-mêmes, on peut très bien souffrir d'une sorte d'injustice dans la famille. Et comment est-ce qu'on va vivre ces choses-là en tant que chrétien ? Qu'est-ce que Dieu va faire pour nous ? Quand nous sommes dans une situation où, indépendamment quelque part de notre propre volonté, on se retrouve dans une situation d'injustice. Une femme, par exemple, chrétienne, mariée à un chrétien, et puis malheureusement l'un des deux trompe, s'en va. Quelle souffrance, n'est-ce pas? Quelle difficulté. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui, marchant avec Dieu, honorant Dieu, sont néanmoins entraînés dans des situations qui sont finalement des situations où Dieu ne bénit pas? Alors, la parole de Dieu nous révèle la suite, et c'est sur ça que j'aimerais un petit peu m'arrêter ce matin. Je passe un petit peu certaines choses ici. Au verset 16, « Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Et voilà ce que Dieu va dire, « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre celui, le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Première chose qui se passe pour ceux qui craignent l'Éternel et qui sont dans une situation collective d'injustice, c'est qu'ils vont se parler les uns aux autres. Il y a quelque chose de naturel qui se passe. Quand quelque chose ne va pas, eh bien, on se parle, n'est-ce pas? Allô?
Oui.
On se parle. Si on assiste à une situation, et nationalement ça arrive, il y a des situations qui viennent choquer la nation tout entière, alors... Ceux qui ont un cœur pour la nation se parlent, n'est-ce pas? Quand la personne de Dieu est importante et quand la personne de Dieu est profanée et outragée, ceux qui craignent l'Éternel se parlent parce qu'il y a quelque chose qui doit être traité, qui ne peut pas être laissé comme ça n'importe quoi, n'est-ce pas? Si dans une famille... Il y a un moment donné un problème particulier qui affecte la famille tout entière, on se parle. Quand on craint Dieu, quand on a le cœur pur, on va dire, alors on va se parler, parce qu'on veut que les choses soient rétablies quelque part, n'est-ce pas? Et c'est la première chose que ceux qui craignent Dieu font tout simplement. Quand quelque chose les choque, ils vont se parler. Quand on ne se parle pas, quand on ne veut pas se parler... On peut se poser un certain nombre de questions. Mais voilà ce que Dieu va faire. Et Dieu va entendre ces discussions-là. La Bible dit clairement, et le prophète l'annonce, « L'Éternel fut attentif et il écouta. » C'est-à-dire que dans nos discussions, face à l'injustice peut-être que nous observons, eh bien, sachons que Dieu écoute ce que nous disons. C'est quand même formidable. Non ? Dieu ne s'en moque pas. Dieu est intéressé par la situation. Il est intéressé de voir comment on en parle. Et ensuite, il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel. Autrement dit, Dieu dit en substance dans le ciel, je veux que ce qui a été dit par les justes, par ceux qui craignent Dieu, je veux que ce soit écrit dans un livre. Un livre de souvenirs. Un livre de souvenirs, c'est fait pour un jour se souvenir, n'est-ce pas? C'est pas un livre qu'on met tout de suite sur sa table de chevet qu'on veut lire le soir même. C'est un livre qu'on écrit pour pouvoir un jour revenir sur ce qui a été écrit. Se souvenir, un peu comme les rois de Perse et de Mède faisaient. Ils archivaient des choses et puis de temps en temps, ils retournaient lire un petit peu ce qui avait été décidé il y a très 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 longtemps en arrière. Il y a un jour, en effet, que Dieu annonce. Il annonce un jour, quelque part, où il fera justice. Alléluia. Dans une situation, que ce soit la situation d'une famille, que ce soit la situation au travail, d'une entreprise, la situation qu'on peut vivre peut-être parfois dans une église, dans une nation, dans une région, etc., etc., Dieu, à un moment donné, déclare qu'il va faire justice. Alléluia. On peut dire alléluia, frères et sœurs. Amen. Amen. Ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Parce que Dieu est celui qui garantit qu'il y aura un jugement juste sur les choses. Heureusement. Sinon, ça serait terrible. Mais remarquez avec moi que ce moment-là n'est pas forcément pour tout de suite. Ce moment-là n'est pas, peut-être pas non plus pour demain, pour dans une semaine, ou pour dans 15 jours, ou pour dans un an. On n'en sait rien. On ne sait pas quand Dieu, précisément, va, sur une situation ou sur une autre, va mettre la lumière et va exercer son jugement. On n'en sait rien. Mais ce que l'on sait de cette écriture-là, c'est que Dieu, donc, entend et note dans un livre de souvenirs pour le jour venu pouvoir faire justice. Et à ceux qui honorent son nom, ça montre bien à quel point pour Dieu c'est important que son nom soit honoré, à ceux qui honorent son nom, il leur dit, ils seront à moi, ils m'appartiendront au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Un homme qui a son fils qui le sert, il aura compassion de la même manière. Si vous êtes patron et que vous embauchez votre fils, bien sûr, vous allez être exigeant comme pour les autres, c'est normal. Mais si votre fils fait des boulettes, ça reste quand même votre fils, n'est-ce pas ? Il va avoir, il faut le reconnaître, il va avoir un avantage sur les autres. Parce que c'est votre fils. Et Dieu nous dit en substance, à ceux qui honorent mon nom, j'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait aucune erreur. Ça veut dire qu'on va bénéficier de la bonté et de la compassion de Dieu, y compris pour les boulettes qui seront peut-être les nôtres pour le coup. Parce que personne n'est parfait ici-bas, je crois, non ? Hein ? Dans toutes les situations. On a tous une part de responsabilité en général, n'est-ce pas ? À des degrés différents, mais on a besoin d'avoir cette assurance que le Dieu que nous servons est un Dieu aussi qui va nous faire compassion et qui va nous faire aussi à nous pitié. Et le Seigneur assure, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et là, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Dieu est en train de dire en substance que le jour où il va exercer son jugement sur les choses, sa bénédiction, y compris celle qui est de nature économique et pratique, parce que c'est un peu de ça dont il est question quand même, eh bien, sera accordée à ceux qui le craignent. Mais remarquez avec moi, elle sera accordée à ce moment-là. Elle ne sera pas accordée forcément avant. Ça va ? On peut penser à Joseph un petit peu dans notre tête ici. Joseph qui va connaître les trois P, le puits, la prison et le palais. Mais avant d'arriver au palais, il sera passé dans le puits, une injustice énorme de la part de ses frères. Vous connaissez l'histoire. Il sort. Il est mis ensuite en prison, deuxième injustice, lui qui honore Dieu. Et dans tous ces moments-là, il était dans une situation où tout en honorant Dieu de tout son cœur, néanmoins, il était loin de la prospérité économique, hein, n'est-ce pas ? Mais le temps de Dieu est venu, et c'était ce temps pour lui qu'on connaît dans l'Écriture, il était encore sur la terre évidemment à ce moment-là, Dieu va le sortir de cette prison et il va l'introduire dans le palais où il va exercer ce ministère qu'on lui connaît sur les nations et avec aussi une bénédiction particulière de Dieu. Amen. Dieu nous réserve à ceux et à celles qui le craignent, réserve le temps de la bénédiction. Peut-être que nous ne verrons que quand nous serons au ciel. J'en sais rien, mais toujours est-il que ceux qui craignent l'Éternel, tôt ou tard, sortiront de leur prison ou sortiront de leur puits et iront dans le palais que Dieu a prévu pour eux. Amen. Je prie que ce soit vraiment une parole pour vous ce matin, je dirais, de réconfort en même temps. De réconfort par rapport peut-être à ce que vous traversez, à ce que vous connaissez dans votre propre vie, dans vos contextes aussi différents. Le Seigneur dira, « Car voici le jour vient » au chapitre 4, « Ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Ça veut dire plusieurs choses. Dieu fait cette promesse, et c'est ce que je tente de vous dire depuis tout à l'heure, Dieu nous fait cette promesse à nous qui craignons l'Éternel. Il nous fait cette promesse que son soleil de justice se lèvera, alléluia, sur ta situation et sur ta vie. Dieu fera justice. Dieu ressortira les paroles que tu as dites, celles qui mettaient en premier son nom à lui. Elles seront ressorties, ces paroles. Alléluia. Et il te fera justice. Le soleil de justice se lèvera. Je ne peux pas te dire que c'est pour demain. Parce que le livre de souvenirs, ça a plutôt tendance à faire penser que ça va être un peu long. Seul Dieu le sait. Mais on peut s'attendre à ce qu'un jour, le soleil de justice se lèvera. Et qu'est-ce que ce soleil va produire ? Il va produire la guérison. Ça veut dire quoi ? Chambre des guérisons. Les gens qui viennent à la chambre de guérison sont des gens qui sont malades, à part ceux qui s'occupent d'eux. Et parfois, ils sont aussi malades, ça peut arriver en effet. Ça veut dire que celui et celle qui craint Dieu peut vivre une souffrance tout en marchant avec Dieu maintenant. Une souffrance de l'ordre de celle de l'injustice. Pensons à Joseph, encore une fois, qui dans sa prison marchait fidèlement avec Dieu, mais quelle blessure il devait traîner. Quelle souffrance devait être sur son cœur. Et intérieurement, c'était peut-être pas si facile que ça à gérer. Je suis pas sûr que Joseph, il était à pouvoir frapper des mains tous les jours. C'était peut-être pas la fête à tous les moments. Et à certains moments, tout devait lui revenir au visage. Ses frères qui l'avaient jeté, l'absence de son père, les trahisons des uns, les trahisons des autres, seul, la trahison aussi de celui à qui il avait donné une parole, les chansons les chansons qui finalement l'a oublié, des années à croupir comme ça. Eh bien, Joseph, quand le soleil de justice s'est levé, il y a trouvé en dessous de la guérison pour son âme. Parce que son âme, quelque part, était meurtrie. Son âme, quelque part, était blessée. Et c'est OK. C'est OK. Puisque Dieu dit bien, je fais lever mon soleil, et derrière ce soleil de justice, il y a de la guérison. Ça veut bien, bel et bien dire qu'on peut tout à fait craindre Dieu, honorer son nom, et en même temps traverser des circonstances qui font que c'est difficile, qui font que c'est dur, qui font qu'il y a une souffrance qui est là. Et c'est OK. Il y a un temps où cette souffrance sera retirée. Alléluia. Que le Seigneur, au travers de cette parole, eh bien, vous encourage et vous fasse du bien. Pensons à ceux, et je le dis très courtement, dans l'Apocalypse, il y a une scène assez forte qui rejoint cette pensée-là. Quand il ouvrit le cinquième sceau, nous dit l'Écriture, « Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » On peut penser à toute l'Église persécutée, tous les hommes et les femmes qui ont payé de leur vie pour leur foi, encore aujourd'hui. Nous, on est préservés de tout cela. Merci Seigneur. « Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ? » Ce ne sont pas des âmes qui sont paisibles, frères et sœurs. Ce sont les âmes des justes, mais qui ne sont pas paisibles, n'est-ce pas ? Jusqu'à quand tarderas-tu à tirer vengeance de notre sang ? Ils sont en demande de justice, ceux-là, n'est-ce pas ? Et la Bible nous dit « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. » Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. et Dieu les a mis en attente, et le soleil de justice se lèvera aussi sur cela. Amen. Alléluia. Alors si Dieu fait lever son soleil de justice sur cela, il le fera aussi sur nos vies. Et ça, c'est un sujet de consolation. Alors je ne sais pas où tu en es ce matin. En tout cas, je te souhaite d'être de ceux et de celles qui craignent Dieu et qui, en raison de cette crainte de Dieu et de cet attachement à Dieu, peut-être souffrent un certain nombre de choses. C'est vrai que ça serait mieux sans difficulté. Mais si c'est le cas, c'est mieux d'être dans cette situation-là que d'être dans la situation du peuple et des sacrificateurs de cette époque-là qui n'honoraient pas Dieu et qui, par leur comportement et par leur attitude, amenaient le trouble, finalement, dans la nation tout entière d'Israël. Amen. Ce matin, cette parole, elle nous dit dans un premier temps, ne sois pas tiède, évidemment, ne sois pas un chrétien qui a Jésus-Christ sur les lèvres et pas dans le cœur. Voilà, évidemment, ne sois pas tiède, bien sûr. Et ce n'est pas le thème de mon message de ce matin. C'est le thème de ce matin, c'est puisque tu es bouillant pour Dieu, puisque tu honores Dieu, eh bien, persévère. Persévère dans ce chemin-là et sois assuré que la peine peut-être qui est dans ton cœur, eh bien, Dieu la retirera au temps convenable. Amen. Que le nom du Seigneur sois béni. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Seigneur, je prie pour que, Seigneur, elle vienne, oui, consoler, qu'elle vienne, Seigneur, aussi renouveler. Seigneur, je pense à Asaph dans ce psaume 73, Seigneur, qui, dans un moment, était dans le trouble, Seigneur, et qui est revenu ensuite à toi. Je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, qu'il n'y ait aucun découragement, Seigneur, qui vienne freiner notre marche avec toi, qui vienne freiner notre enthousiasme, notre joie, Seigneur, en toi. Et je te demande, Seigneur, que cette parole de ce matin qui nous garantit ton écoute, qui nous garantit ta bénédiction, qui nous garantit aussi, Seigneur, la restauration de nos âmes, le temps venu, que tout cela, Seigneur, nous aide à persévérer avec joie dans tes voies, Seigneur. Que ton peuple, ce matin, ici, Seigneur, soit béni, qu'il soit, Seigneur, encouragé au nom de Jésus. Amen. Amen.